Imaginez un camp de réfugiés qui existe depuis 40 ans. Les gens y naissent, y vivent, y meurent sans jamais le quitter. Nous sommes en Algérie, dans un coin de désert du Sahara, où une partie du peuple sahraoui attend depuis 4 décennies de pouvoir retrouver ses terres dans le Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole occupée aujourd'hui par le Maroc.
Sur ces terres inhospitalières, une société s'est mise en place, régie par les Sahraouis eux-mêmes, mais qui dépend entièrement de l'aide humanitaire internationale pour survivre. Cet hiver, un petit groupe de Suisses romands a pu s'y rendre pour y bâtir des panneaux solaires et faire un reportage photo.
Et nous sommes avec deux d'entre eux, Amanda Yosé et Anaïs Kaiser. Bonjour.
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 Vous faites partie donc de ces 12 personnes qui sont parties en décembre dernier. C'est rare pour des Occidentaux de pouvoir se rendre sur place, Amanda?
Je dirais qu'il n'y a pas énormément de personnes qui y vont parce que c'est quand même un endroit qui est assez peu connu, mais par contre c'est très facile d'y aller, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restrictions particulières. C'est une zone qui est très contrôlée, très sécurisée, mais il y a beaucoup d'ONG qui sont actives sur place, notamment italiennes et espagnoles. Donc voilà, il y a aussi un groupe de Suisses qui va régulièrement sur place. Donc non, c'est pas particulièrement difficile d'y aller.
Quel était le but du voyage pour vous, Anaïs?
C'était tout d'abord l'idée de se rendre un peu compte de la situation sur place et aussi de réparer des panneaux solaires et de commencer à assurer une maintenance au niveau des installations solaires.
Alors, l'histoire des Sahraouis, finalement, leur situation, elle est peu médiatisée, peu connue. Comment est-ce que vous êtes retrouvé à vous intéresser à cette population et à vous rendre sur place, à donner un coup de main aux ONG, à faire un reportage photo? Ça s'est passé comment?
Bon, moi, très honnêtement, je ne me rappelle pas très bien quand j'ai commencé à entendre parler de ça, parce que ça fait quand même assez longtemps que je connais la situation, puis que je me suis intéressée. J'avais une copine espagnole qui était active dans la coopération là-bas, et qui m'en avait parlé. Après, je crois que dans le groupe, il y avait quand même assez peu de gens qui connaissaient bien le sujet. Il y en avait certains qui avaient entendu parler, mais qui ne connaissaient pas vraiment les détails ou qui n'auraient jamais imaginé d'y aller. Donc moi, j'avais rencontré notamment Gilles Boss, le grand leader de l'association ADER-S avec laquelle on est parti. Et bon, on avait eu un peu l'idée de proposer à un groupe de partir. Donc on a cherché parmi les amis, les gens qui pourraient être intéressés. Et puis c'est comme ça qu'on est parti, quoi. On l'a fait.
Est-ce qu'il y a un grand décalage entre ce que l'on sait, ce que l'on a appris, et lorsque l'on arrive sur place?
Non. Moi, j'étais pas particulièrement surprise de ce que j'ai trouvé. Je crois qu'on avait bien préparé le voyage. On avait fait un certain nombre de réunions avec des personnes qui avaient déjà été sur place. Après, il y a toujours une partie d'inconnu dans un voyage comme ça. Et puis, le fait de le vivre, ça, c'est clair que c'est assez différent. Mais je trouve que ça collait assez bien à la réalité collait assez bien à ce qu'on en avait entendu avant. Je sais pas, toi, Anaïs?
Ouais, un peu pareil. Ouais.
Justement, la préparation pour un voyage comme tel que celui-là, c'est quand même quelque part assez éprouvant d'aller vivre dans le désert pendant 10 jours. Comment est-ce que vous vous êtes préparé pour ça?
Je sais pas, la préparation, on a pris un petit peu des médicaments. je sais pas comment se préparer. Prendre de la crème solaire.
Psychologiquement aussi.
Psychologiquement. Ouais. Je pense que chacun a fait un peu différemment. Bon, moi, je me suis un petit peu... je ne sais pas comment dire ça, mais comment se préparer à avoir de la misère, bon, arriver avec un état d'esprit ou peut-être avec un peu plus de calme intérieur. C'est aussi des gens qui sont beaucoup plus calmes que nous, qui parlent plus doucement, qui vivent plus lentement. Et aussi de me dire un peu, ok, bon là je vais changer de rythme un peu.
Alors il y avait la volonté de faire de la maintenance au niveau des panneaux solaires, vous l'avez dit. Et à part ça également, de revenir avec un témoignage, notamment photographique.
Oui, tout à fait. On est parti avec deux photographes qui ont passé pas mal de temps à photographier la vie dans les camps, quoi. Et puis maintenant, on organise des expositions de photos, notamment à Neuchâtel et à Lausanne. Il y a deux expos qui sont déjà prévues. Et puis l'idée, c'est à la fois de visibiliser cette question. Et d'autre part, c'est de vendre les photos pour récolter des fonds pour l'association et pouvoir continuer en fait ce travail de maintenance, voire de développer d'autres projets.
Alors Amanda et Anaïs, vous avez passé 10 jours dans le camp de Rabouni avec l'association ADRS, qui équipe notamment des dispensaires médicaux avec des panneaux solaires. Sur place, vous étiez logés comment ?
Donc en fait, peut-être juste une petite correction, on était les premiers jours dans le protocole de Rabouni, qui est la partie où il y a l'administration des camps et où les visiteurs doivent passer la première nuit en arrivant, parce qu'en général on arrive de nuit. Et puis après on était le reste du temps dans le campement de la wilaya de Smara, et on était hébergés dans des familles.
Et comment s'articulaient vos journées sur place ?
Alors on a pas mal visité différentes associations, différentes organisations, par exemple une association qui lutte pour des mines et puis pour soutenir les victimes des mines, ou l'association des femmes sahraoui. On a fait des visites, on a mangé chez les gens, on a pu discuter, on a pu aller voir différents dispensaires. Les gens nous ont présenté un petit peu toutes les installations et toutes les infrastructures qu'ils avaient mis en place.
Communication en espagnol avec les gens dans le camp de réfugiés ?
Oui, essentiellement, il y avait toujours un ou deux traducteurs pour le reste du groupe.
Et qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans la culture des Sahraouis ? Vous disiez tout à l'heure, c'est des gens très calmes, très doux, malgré ces situations qu'ils vivent depuis longtemps.
Oula, alors le plus, il y a eu beaucoup de choses très impressionnantes.
Un exemple.
Mais je crois vraiment ce calme et puis cette sérénité, cette unité un peu dans la lutte. Ils avaient quelque chose de très calme, et puis on sentait qu'ils avaient un objectif, et voilà, il y avait quelque chose qui était reposant en fait dans leur, quelque chose de fort quoi.
Une réelle volonté, une réelle force, mais quelque chose de très calme.
Mm-hmm. Ouais, et puis je dirais aussi que c'est un peuple très pacifique qui vit une situation extrêmement difficile depuis longtemps, dans un silence presque assourdissant. Mais par contre, dans la société elle-même, on voit très peu de violence, d'agressivité. Moi, ça m'a beaucoup marqué. C'est pas du tout comme ça que j'imaginais un camp de réfugiés. Il y a aussi des prisons avec des prisonniers de droit commun, mais ils sont extrêmement peu nombreux. Et ça, c'est, je pense, moi, une des choses qui m'a le plus marqué, en fait.
Et vous, comment est-ce que vous étiez perçu par ces gens-là lors des contacts ?
Bon, on était très bien accueillis. Je pense que c'est habituel de voir des gens qui viennent pour du travail humanitaire là-bas. Dans la famille où on était avec Anaïs, c'était
la
comme
fête.
La fête, quoi. Quand on est arrivé, ils ont sacrifié une chèvre, alors que ils n'en ont pas beaucoup, hein, je peux vous dire. Et puis voilà, on a été traités comme des rois, même si on leur disait qu'il fallait pas se déranger pour nous, parce qu'on voulait pas, on va dire, on voulait pas profiter du peu qu'ils avaient. Mais c'est vrai que ça leur faisait très plaisir. C'était la première fois que la famille où on était accueillait en fait des étrangers. Donc voilà, pour eux, on fait partie de la famille maintenant. On reçoit des téléphones régulièrement, des SMS, et puis on espère les revoir bientôt, quoi.
Donc téléphone, SMS, ça veut dire que ils sont connectés comme partout dans le monde.
Moins que chez nous, quand même, mais ils ont beaucoup moins Internet, par exemple, mais oui, pour les téléphones, ils sont quand même raccordés à un réseau électrique de l'Algérie.
Vous disiez, ça fait des années que cette situation existe, on en parle très peu dans les médias. Est-ce que c'est parce que, justement, ça ne crée pas de remous, parce qu'il y a ce pacifisme qui fait qu'on vit les choses dans le silence sans se révolter ?
Ouais, il faut dire que il y a eu un cessez-le-feu depuis 1991 entre le Front Polisario et puis l'armée marocaine. Donc depuis 25 ans, disons le conflit armé est en stand-by. Et c'est un peu triste à dire, mais en fait depuis là, il n'y a pas vraiment eu d'avancée pour le peuple sahraoui. Donc on entend aussi un peu ce discours dans la population, surtout chez les jeunes, que finalement il y a rien qui se passe. Aussi parce que les gens ne s'intéressent pas à un peuple qui est organisé, qui vit dans la pauvreté, mais qui a pas perdu sa dignité, si on veut. Et ça, on l'entend vraiment beaucoup.
Et puis là, on l'a appris il y a peu, il y a plusieurs distributeurs en Suisse, distributeurs donc de supermarchés, qui vont arrêter d'importer des produits qui viennent du Sahara occidental, justement en se disant que ces terres ont été spoliées aux Sahraouis. Est-ce que le fait que en Suisse, des grandes enseignes prennent ce genre de décision, c'est des choses qui peuvent faire avancer les choses, selon vous?
Oui, bien sûr. Donc ça, c'est typiquement une très bonne chose. Il y a aussi des accords de pêche de l'Union européenne avec le Maroc qui ont été remis en question récemment. Faut dire que le Sahara occidental, c'est une région qui est considérée comme une région comme un territoire non autonome. Ça veut dire que tout accord qui est conclu avec le Maroc est illégal pour exploiter les ressources naturelles du Sahara occidental. Donc voilà, il y a d'autres entreprises suisses qui sont présentes là-bas, qui ont des accords, comme Glencore par exemple. Et ça, c'est un problème. Et évidemment, toute remise en question de ce genre d'accord est une bonne chose pour faire avancer cette cause.
Le but pour vous, c'était justement d'apporter de la visibilité à cette affaire des Sahraouis. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes de retour en Suisse?
Bon, il y a cette exposition qui est prévue au Forum de l'Hôtel de Ville à Lausanne le 22 juin. Il y a aussi une exposition à la galerie Idée à Neuchâtel qui sera à partir du 31 mars jusqu'au 9 avril. Il y a sur Internet du crowdfunding pour soutenir l'association ADRES qui va probablement retourner dans l'année au Sahara pour assurer la maintenance, enfin pour faire en sorte que la maintenance des installations solaires se passe bien, pour vérifier que le matériel a bien pu arriver sur place, etc. Donc voilà, il y a différents projets.
On va mettre en lien ces projets sur notre blog, sur Format A3. On vous remercie beaucoup d'être venu nous en parler ce matin et on vous souhaite aussi beaucoup de courage et de bonne chance pour la suite de vos projets.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci beaucoup.
Merci. La suite du programme, c'est les infos de 9h qui vont arriver dans quelques instants. Format 3, c'est terminé pour aujourd'hui, mais hey, vous le savez bien, on ne va pas vous laisser comme ça.
On revient oui.
Demain sur le coup de 8h10. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée. À bientôt.
À demain.
A3, c'est plus sympa. Format A3.